Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous, un petit épisode spécial du rendez-vous jeu, ça va être très très court. Je voulais pas faire d'épisode cette semaine, mais vous me connaissez, je peux pas rester loin du micro très longtemps. Et en fait, on n'avait pas d'épisode cette semaine parce qu'on en fait un la semaine prochaine pour vous résumer tout le 3. On sera avec JK et sans doute d'autres personnes. Et on aura donc cet épisode juste après la fin des conférences de l'E3 pour tout vous expliquer et que vous soyez au courant de tout ce qui s'est passé d'intéressant là-bas. Donc je me suis dit, on va pas faire un épisode cette semaine, il n'y a pas énormément de news en plus, ça sert à rien, on va faire l'épisode la semaine prochaine. Mais je suis comme je disais toujours pas très loin du micro, et en fait j'ai beaucoup réfléchi à beaucoup de sujets intéressants sur la nature de l'industrie du jeu vidéo et de la presse dans le jeu vidéo, en particulier en France. Vous vous en doutez un petit peu après l'épisode précédent qui a généré beaucoup de discussions sur le blog de l'émission, et c'est pas surprenant parce qu'on a eu des débats assez animés avec Benoît et Franck, débats que moi j'ai trouvé hyper intéressants et hyper sains dans notre industrie. Peut-être que ça manque un petit peu parfois, ce genre de confrontation d'opinions tout de même poli et comment dire de conversation posée, même si on sait le ton est monté un petit peu parfois, on est quand même resté assez globalement, bah comme je disais, poli, je trouve. Et donc ça a généré beaucoup de conversations et je trouve ça très intéressant, mais ça m'a amené aussi à réfléchir au sujet dont on a débattu. Et je vais pas revenir sur la question du Japon qui à mon sens est autre, mais et je veux pas non plus refaire le débat encore une fois sur la nature du jeu vidéo. En fait, je veux pas vraiment faire de débat, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous livrer mes pensées comme ça, un petit peu brutes, hein, donc c'est pas un épisode très structuré, c'est juste mes pensées un petit peu brutes sur la manière dont on approche le métier de journaliste de jeux vidéo, en France en particulier, peut-être dans le monde en général, mais en France plus particulièrement, et ce que j'en pense, ce que j'en comprends, ce que j'apprécie, ce que j'apprécie moins, parce que j'ai l'impression qu'on a quelque chose, une attitude assez différente des autres. Peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment cette impression, et ça relève d'une sorte de psychologie assez universelle pour l'approche qu'on fait de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas dans notre pays, en France. Et je ne sais pas si c'est pareil dans la francophonie, et j'en ai parlé un petit peu sur le Slack du Rendez-vous Tech, sur Twitter, et certains sont d'accord avec moi, certains sont pas d'accord, certains me disent que c'est pareil partout, d'autres me disent que c'est assez français. Et mais bon, voilà, c'est ma réflexion, donc je voulais vous la livrer, et puis vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Mais c'est pas, comme je le disais, vous savez comme j'aime les débats et les confrontations d'idées, on en a souvent. Là, c'est vraiment juste ma réflexion à moi. L'idée est pas de se relancer dans un débat avec le pour, le contre, c'est juste moi ce que j'en pense. Et je pense que pour le jeu vidéo plus particulièrement, il y a un débat assez clairement balisé en France entre les tenants d'une approche assez, comment dire, hyper stricte de du métier de journaliste dans le jeu vidéo, et puis des gens qui sont un petit peu plus comment dire, qui accordent moins d'importance à cette idée de sévérité ou d'exigence. Je sais que Gamekult parle souvent d'exigence, et c'est un terme qui est légitime, je crois, mais il y a, j'ai l'impression, le groupe disons Canard PC, Gamekult, qui sont particulièrement critiques, je trouve. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui sont un petit peu plus laxistes, je dirais, les jeuxvideo.com, IGN, Gameblog, etc., qui considèrent, ah bah oui, mais on se marre bien, on s'amuse, c'est pas la peine de faire tout un plat de ce métier. Et je grossis le trait, hein, évidemment, allez pas me balancer des exemples spécifiques de non, c'est pas du tout comme ça. Je crois que d'une manière générale, en gros, on sera tous d'accord pour dire qu'il y a deux visions de ce métier qui s'opposent. Et il y a souvent les mêmes choses qu'on entend, quoi. Il y a les débats sur la question des notes, par exemple. Et il y a beaucoup de gens qui prennent en exemple les notes trop élevées pour dire que, bah voilà, on manque de sérieux, on manque de rigueur. Ça, c'est, je comprends le sujet. Je crois que par nature, les notes amènent des problèmes. Mais déjà, dès qu'on parle de ce genre de choses, on arrive dans un problème qui est ce qu'on considère comme des bonnes ou des mauvaises notes. Et souvent, on prend la question des notes aux États-Unis. Et déjà, à la base, là, un truc qu'il faut comprendre, c'est que aux États-Unis, la notation même à l'école est approchée de manière très différente. C'est-à-dire que aux États-Unis, il est tout à fait possible d'avoir 100 sur 100 à un test. Si on répond juste partout, bah on a 100, voilà. Et si on a 70, c'est franchement pas génial, quoi, comme note. C'est pas du tout ce qu'on pourrait espérer d'un bon élève. Alors qu'en France, si on a un 14 sur 20, qui est l'équivalent de 70 sur 100, bah c'est déjà super bien, quoi. Et surtout, le truc à retenir, c'est que 20 sur 20, c'est souvent pour les auditeurs, c'est souvent pour les gens qui considèrent les notes, pour les étudiants, pour les profs, 20, c'est impossible à atteindre. C'est la perfection et on ne peut pas atteindre la perfection. Alors bien sûr, il y a des gens, ça provoque tous tes débats. Est-ce qu'un tel jeu peut avoir 20 ou pas? Il y a plein de gens qui partent dans ce débat et des gens qui vont dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible, mais d'une manière générale encore, 20 sur 20, c'est censé être inatteignable. Donc là, de par ce fait-là, les notes qu'on va attribuer en France et la manière dont on va regarder les notes qu'ils attribuent ailleurs va être biaisée. Et je pense que ça dit quelque chose sur l'attitude française que on ne peut pas avoir 20 sur 20 parce que c'est la perfection, ou 10 sur 10 ou 5 sur... Enfin, bon, 5, ça commence à devenir limite, mais... Donc, je pense que ça dit vraiment quelque chose sur la manière dont on approche dont on regarde notre approche de ces produits culturels. Ensuite, il y a, j'entends beaucoup de gens qui disent qu'on n'a que des remakes ou qu'il n'y a pas d'inventivité, et bien sûr qu'on a beaucoup de remakes, par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'on a que ça. Je veux dire, il y a énormément de remakes parce qu'on apprécie les trucs qu'on a aimés dans notre enfance, et puis on a envie de les retrouver, c'est normal, c'est des trucs qui ont été super, et c'est des trucs qui nous ont marqués, et on a envie de les revisiter. Je veux dire, c'est un sentiment complètement naturel. Moi, ce qui me poserait problème, c'est si on avait que ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de productions dans le jeu vidéo, que ce soit chez les indépendants ou même ailleurs, même chez les AAA, je trouve qu'il y a énormément de choses intéressantes qui se font. Et le fait de ne pas voir toute cette différence, toute cette innovation, toutes ces choses nouvelles qui existent, parce que il y a aussi des remakes, et de genre de se bloquer, de se mettre des œillères sur tel ou tel type de truc qu'on n'aime pas, et donc jeter une sorte d'un revers de la main comme ça, dire que ce n'est que des remakes ou ce n'est que des trucs qu'on nous ressort tout le temps, ça me paraît dommage, quoi. Ça me paraît un peu triste pour la manière dont on approche ce loisir qu'on apprécie. Et ça, c'est un truc que j'ai l'impression que souvent en France, on a l'impression que pour être sérieux, pour être rigoureux, il faut être hyper morose. Je reviens à ce terme de morose, j'en parlais beaucoup avec Benoît sur Twitter justement, et Il me disait, on parlait de la valse du marketing et du fait que c'est vrai dans le journalisme de entertainment, que ce soit le ciné, la musique, le jeu vidéo, bah on est forcément lié aux sociétés qui créent les produits. Ils ont l'information, ils veulent la délivrer d'une manière ou d'une autre, et donc les journalistes sont obligatoirement en relation avec les sociétés qu'ils couvrent, et par nature, ça pose un problème éthique, quoi, d'être en relation avec la société dont tu dois parler. Et il y a en plus, dans le jeu vidéo, comme dans toutes ces autres machines de marketing, il y a cet emballement marketing dans lequel il est facile de se laisser emporter. Surtout quand tu connais les gens, quand les managers PR sont tes amis, etc. Donc, je comprends tout à fait cette idée que il faut essayer de rester en retrait, essayer de s'affranchir un petit peu, de s'imposer une certaine rigueur pour s'affranchir de cette excitation qui peut biaiser la manière dont on apprécie le produit. Et donc, je le disais, je parlais de tout ça avec Benoît, et il a dit quelque chose de très juste qui me paraît tout à fait approprié pour la discussion, c'est qu'il disait, je paraphrase, hein, je suis désolé si c'est pas exactement les mots qu'il employait, mais en gros, il disait, le seul moyen qu'on a pour montrer pour soi-même s'affranchir de cet emballement, c'est d'être un minimum morose, c'est-à-dire de se détacher de cette excitation artificielle qui est créée par et je parle même pas.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
De soirées machin et de cadeaux bidules, Doritos Gate, tout ça, c'est même pas ça, évidemment, que on doit s'en affranchir, c'est une évidence, mais il parlait de, et il y a beaucoup de journalistes qui en parlent, de cet emballement marketing où effectivement on a tous les trailers, on a de la pub partout, on a l'excitation qui monte pour tout le monde, et ça fait plaisir de faire partie de cette vague d'excitation, et ça fait plaisir d'être content, en fait. C'est une réponse chimique dans le cerveau, je pense. Et donc, ce qu'il disait, c'est que le moyen de, et je pense qu'il a raison, il faut s'affranchir de tout ça. Et pour lui, le fait d'être morose, c'est un moyen de, je continue à utiliser ce terme parce que c'est le terme avec lequel on plaisantait, mais cette exigence, ce devoir de morosité sont là, et donc il faut être cynique là-dessus parce que sinon on se laisse emballer. Et je trouve encore une fois que c'est pas faux, mais je crois qu'il y a deux choses à opposer à cette vision, à mon sens. Enfin, pour moi, hein, c'est la manière dont je le vois. C'est que d'une part, on n'est pas des journalistes politiques. On n'est pas en train de refaire l'avenir du monde. On parle de jeux vidéo, de cinéma, de musique. Ça reste du journalisme encore une fois, d'entertainment. J'utilise le terme anglais parce que c'est à mon sens le plus approprié. Donc, je pense qu'on a le droit de se laisser emballer un tout petit peu quand c'est un truc qu'on aime. On a le droit d'être un petit peu enthousiaste. C'est pas qu'on est en train de parler du sommet du G7 et que si on dit « Ouah, c'était trop fort, l'Allemagne a dit ça, c'était super cool !» Bon, c'est pas approprié, évidemment. Mais aujourd'hui, si on parle de, par exemple, je sais pas, Uncharted 4, et que je dis « C'était tellement incroyable de se faire ceci !» Si on prend un petit peu d'emphase, si on prend un petit peu d'enthousiasme, c'est non seulement autorisé, mais à mon sens, ça fait partie du truc. Et c'est important d'en avoir un petit peu. Et d'autre part, l'autre chose qui me paraît aussi à opposer un petit peu à cette vision, c'est que je crois pas que c'est tout ou rien. Je pense qu'il y a effectivement un devoir important, si on est un journaliste sérieux, de se détacher, de savoir en tout cas se détacher de cet emballement marketing, mais ça veut pas forcément dire de voir les choses en noir. Et je sais que les journalistes qui défendent cette vision diraient que non, ils voient pas les choses en noir, ils voient les choses de manière objective. Mais pour moi, souvent, il y a un petit peu trop de négativité. Et ensuite, tout est relatif. On apprécie la chose avec la manière dont on, avec son propre regard. Mais pour moi, c'est pas, on n'est pas obligé de virer à l'autre extrême. On peut simplement, c'est tout bête à dire, mais le moyen pour moi d'être sérieux, c'est simplement d'être sérieux. C'est-à-dire que il faut savoir se détacher du marketing et comment dire, ne pouvoir dire ce qu'on pense sans se faire influencer et en expliquant le pourquoi de son opinion, le fait de rester rigoureux sans forcément être, on n'a pas forcément besoin de casser du sucre sur le dos des éditeurs parce que c'est des éditeurs, et je sais qu'il le, que ça n'est pas systématiquement le cas, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça quand même. Et je crois qu'on a chez les anglophones des exemples de cette rigueur qui est juste, qui est pas dans l'excès d'enthousiasme et qui est pas non plus dans l'excès de rigueur. Il y a des publications au hasard, Eurogamer, Edge, Wired, il y a des podcasts comme DLC que j'aime beaucoup où Jeff Kenata est très enthousiaste, mais il reste rigoureux. Il y a One Up à l'époque, il y a Giant Bomb qui fera plaisir à certains auditeurs qui se reconnaîtra. C'est des gens qui sont sérieux, mais qui sont pas qui savent s'enthousiasmer pour les trucs qui leur plaisent. Et donc il y a cette ce juste milieu qui, à mon sens, est difficile à trouver en France. On le voit peut-être dans la presse écrite parfois. Il y a des publications de presse écrite qui sont pas dans l'actualité, donc qui ont peut-être une certaine facilité à rester dans l'analyse et à rester dans la célébration de ce média qu'on apprécie, mais sans tomber dans un excès ou l'autre. Mais donc pour moi vraiment, c'est ça le vrai travail du journaliste, c'est de savoir expliquer pourquoi, de savoir faire passer au lecteur ou à l'auditeur ou ce que c'est, le non pas simplement la positivité sans raison qui peut virer dans un excès qui est pas souhaitable parce que ça devient trompeur, et pas non plus chercher tellement à être rigoureux qu'on ne réussit plus à trouver la joie dans ce qu'on apprécie dans ce média, dans cet art qu'on apprécie. Donc voilà, c'est la manière dont je le vois. Et si, tant qu'à choisir, en fait, vous le savez, hein, vous l'avez bien compris, je suis, moi, plutôt du côté de ceux qui sont rigoureux. Je pense que c'est très clair. Et s'il faut choisir entre les deux, il y a un travail absolument admirable de journalisme, pour le coup, de vrai journalisme. On voit, je parle souvent de Game Cult, mais il y a des papiers, des cahiers qu'ils font d'investigation, de recherche, qui sont vraiment admirable, simplement, qui est du vrai travail de journalisme. On a la même chose chez tout autant Canard PC et d'autres encore que je citerai pas. Il y a évidemment du travail qui est appréciable, même chez les autres. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a parfois des trucs un petit peu critiquables chez les uns et des trucs admirables chez les autres. Mais bon, s'il faut vraiment choisir, moi, je suis du côté de la rigueur. Mais par contre, encore une fois, moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller dans l'un des extrêmes. Et je suis souvent, je me fais souvent l'avocat du diable, donc j'essaye toujours de trouver cet équilibre, vraiment de trouver ce qu'il y a à prendre d'un côté et de l'autre. Et j'essaye toujours d'avoir ces... Je pense que les débats dans ces sujets sont très importants, les débats d'idées sont toujours importants, et savoir discuter de ces choses-là sans s'énerver, c'est toujours hyper important. Donc, pour moi, cet aspect est là et reste important, et je pense que je vais continuer à... Évidemment, j'essaye toujours, depuis le début de cette émission, j'essaye d'avoir des gens qui sont de ce côté rigoureux, j'ai des gens de ce côté plus enthousiaste. Mais ce que j'essaye de faire avec cette émission, c'est avoir cette approche sérieuse, en général, qui laisse la place à l'enthousiasme, mais sans déborder vers le je sais même pas comment le décrire. Ça laisse la place à l'enthousiasme, mais ça ne déborde pas vers la perte de repères, la perte vers l'emballement. Peut-être que c'est un bon moyen de le dire. Et oui, il y a des jeux que j'apprécie et que j'adore. J'ai parlé de plein de jeux que j'aime beaucoup, que ce soit Uncharted, Destiny, Overwatch, mais je pense que j'ai toujours essayé d'expliquer les choses avec rigueur, et je crois que même si certains sont fatigués de m'entendre parler de tel ou tel jeu à tel ou tel moment de l'année, parce que c'est celui qui me plaît en ce moment, je pense pas qu'on me reprochera de ne pas être objectif. Et pourtant, je suis enthousiaste. Donc, je crois qu'il est tout à fait possible de le faire. Et je crois que on approche maintenant, on est à une semaine de l'E3. Et l'E3, c'est cet énorme festival, cette énorme fête de notre média, et évidemment qu'il y a énormément de marketing, et évidemment qu'on peut se perdre dans les méandres de cet emballement marketing, mais je crois que il est important aussi d'avoir ces moments de joie, ces moments de célébration, et qu'il est possible de les partager ensemble, de partager notre passion en restant rigoureux. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec le rendez-vous jeu. J'essaye de rester très... Je parle toujours de cette analyse de l'industrie, d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'analyser, de décortiquer les messages marketing, pourquoi ça s'est fait à tel moment, pourquoi ça s'est fait comme ça. Donc, j'en parle de temps en temps. Moi, j'ai pas de relation avec les managers PR, donc je suis vraiment en retrait par rapport à ça. Je pense pas qu'on puisse m'accuser d'être vendu à part à Blizzard, ça c'est encore autre chose, mais je suis vraiment en retrait de tout ça, et pourtant, ça veut pas dire que je vais pas m'enthousiasmer, je vais pas condamner l'un ou m'emballer pour l'autre. Donc, bref, je pense que j'ai fait le tour de la question. C'était vraiment une expression brute de ma réflexion sur le sujet, parce que c'est un sujet hyper important, c'est un sujet qui est hyper intéressant pour moi. C'est le genre de réflexion qui me garde éveillé la nuit, qui me motive. Ça fait qu'on n'est pas juste une bande de gamins qui est émerveillée devant, la première... boîte de, je sais pas, le premier Zelda qu'on a ouvert sur notre Nintendo Entertainment System. On n'est pas que ça, on est quand même un petit peu plus adulte, mais en même temps, on n'a pas oublié cette partie de notre passion. Et ces deux éléments sont hyper importants pour moi. Bon, je crois que je commence à me répéter, et puis il faut que j'aille enregistrer d'autres émissions, parce que mine de rien, le travail n'attend pas. Donc je vais vous laisser là, je vous remercie d'avoir passé cette petite vingtaine de minutes en ma compagnie, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à venir mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez de toutes ces réflexions sur le blog de l'émission frenchspin.fr, et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, comme je le disais, pour l'E3 qui aura eu lieu, et on va vous résumer tout ça avec évidemment une bonne dose de rigueur et une bonne dose de passion. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous donc dans une semaine à peu près. Ciao à tous!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.